VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde, aujourd'hui VOA Afrique, édition du vendredi 29 octobre 2021. En direct de Washington, Idrissa Seydoulia
et Nanit Talani.
Pour commencer, les titres.
Le président américain Joe Biden se joint aux appels pour la restauration du gouvernement civil au Soudan.
Une mission de la CEDEAO est arrivée hier soir en Guinée pour accompagner la transition, selon le chef de la délégation ouest-africaine.
Au Mali, le quatrième vice-président du Conseil national de transition, Issa Kaoundim, a été inculpé et écroué hier à Bamako.
En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara parle réconciliation avec l'opposant Pascal Afinguesson du FPI.
Le président américain Joe Biden, aujourd'hui à Rome, pour un tête-à-tête avec le pape François au Vatican et un face-à-face avec son homologue français Emmanuel Macron avant le sommet du G20.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal.
Le président américain Joe Biden a appelé hier la junte au Soudan à rétablir le gouvernement civil en promettant que son pays continuerait de se tenir aux côtés du peuple soudanais et de sa lutte non violente. Claire Morin-Gibourg.
Notre message aux autorités militaires du Soudan est clair. Le peuple soudanais doit être autorisé à manifester pacifiquement et le gouvernement de transition dirigé par des civils doit être restauré, a affirmé Joe Biden dans un communiqué rappelant que des dirigeants, des organisations et le Conseil de sécurité de l'ONU ont condamné la prise de pouvoir par les militaires et la violence contre les manifestants pacifiques. Le président américain a également appelé les militaires à relâcher immédiatement toutes les personnes détenues et à restaurer les institutions associées au gouvernement de transition. Les États-Unis continueront de se tenir aux côtés du peuple soudanais et de sa lutte non violente pour faire avancer les objectifs de la révolution soudanaise, a assuré Joe Biden. Les affrontements entre manifestants et forces de sécurité ont fait un nouveau mort hier à Khartoum.
Oui, un nouveau mort, et ajoutons que 6 autres manifestants ont été blessés. Selon des médecins, au moins 8 manifestants ont été tués et 170 blessés depuis lundi.
Une mission de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest est arrivée hier soir en Guinée pour accompagner la transition dans ce pays où des militaires ont renversé le 5 septembre le président Alpha Condé. La délégation ouest-africaine a été accueillie à l'aéroport de Conakry par le ministre des Affaires étrangères Maurice Sanda Kouyaté, dirigé par le président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Cassibro. Elle doit séjourner en Guinée jusqu'à samedi, a précisé jeudi cette organisation dans un communiqué. C'est au moins la troisième mission de la CEDEAO en Guinée depuis le putsch qui a renversé M. Condé.
Au Mali, le quatrième vice-président du Conseil national de transition, Issa Kaoundim, a été inculpé et écroué hier à Bamako pour trouble à l'ordre public. Il doit être jugé aujourd'hui en flagrant délit. Le point avec Michel Joseph.
Issa Kaoundim a été arrêté mardi soir à Bamako par la gendarmerie sur ordre de la justice pour propos subversifs sur les réseaux sociaux, selon une source judiciaire. Il a été placé sous mandat de dépôt hier par un juge du tribunal de grande instance de la commune 4 de Bamako. Il est poursuivi pour trouble à l'ordre public et atteinte au crédit de l'État. Son jugement en flagrant délit est prévu ce vendredi à 14h GMT et local, a indiqué son avocat, Maître Kassoum Tapo. Issa Kaoundim a été l'ex-porte-parole de l'imam Mahmoud Diko, qui a participé à la mobilisation qui avait conduit en août 2020 à la chute de l'ex-président Ibrahim Boubacar Keïta. Il est également connu pour son soutien au colonel Assimi Goïta, président de transition, et pour ses diatribes contre le premier ministre Choguel Kokala Maïga. M. Ndim a notamment critiqué la décision lundi du gouvernement malien d'expulser Amidou Boly, le représentant spécial de la CEDEAO, accusé par Bamako d'agissements incompatibles avec son statut.
En Côte d'Ivoire, le président du FPI, Front Populaire Ivoirien, Pascal Affinguesson, a été reçu en audience par le président Alassane Ouattara. Il a saisi l'occasion pour demander à M. Ouattara la reprise du dialogue politique 10 jours après la création du nouveau parti de Laurent Gbagbo, M. Gbagbo qui est le fondateur du FPI. Les détails avec Delphine Bohius, notre correspondante à Abidjan.
À sa sortie d'audience face à la presse, le président du FPI dit avoir évoqué avec le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara plusieurs sujets d'intérêt national, dont la réintégration des fonctionnaires de retour d'exil, la libération des militants, la reprise du dialogue politique, la réconciliation, la stabilité politique de la Côte d'Ivoire. Sur le dernier volet, écoutons le président du Front populaire ivoirien, Pascal Affinguesson.
Nous avons plusieurs dossiers qui sont en suspens et qu'il faut soldés. Et puis, il y a les perspectives de 2025. Il ne faut pas attendre le dernier moment que le dialogue politique reprenne avec les partis politiques, que nous puissions trouver un consensus avant l'échéance de 2025, afin que 2025 permette à la Côte d'Ivoire de tourner la page des élections contestées ou des crises électorales et que ce soit une nouvelle ère qui s'ouvre pour notre pays.
Pour conclure, Pascal Affinguesson a lancé ce bout de phrase. Le FPI, nous sommes toujours disponibles. Le chef de l'État peut compter sur nous. Delphine Bouise, Abidjan, VOA Afrique.
Génocide rwandais, une information judiciaire a été ouverte à Paris contre Pierre Kayondo, un ancien homme politique français qui vivrait en France, pour crime de génocide et crime contre l'humanité, pour le rôle qu'il aurait eu au cours du génocide des Tutsis en 1994. Le collectif des partis civils du Rwanda, qui a porté plainte, assure que Pierre Kayondo, ancien préfet de Kibuye et ancien député dans la préfecture de Gitarama, a activement participé à l'organisation des exterminations à Ruango et à Tambwe dans la préfecture de Gitarama.
L'armée congolaise a annoncé ce jeudi avoir perdu 4 militaires et tué 27 miliciens en 2 jours de combat dans plusieurs villages en Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Les combats ont eu lieu mardi et jeudi dans 2 villages du territoire de Djougou, après que les miliciens du groupe Codeco, coopérative pour le développement du Congo, ont incendié plus de 20 maisons dans 4 groupements voisins et attaqué une position des FARDC, les forces armées de la RDC.
L'OMS a dévoilé hier un nouveau plan de lutte contre la pandémie de COVID-19 dans les pays les moins riches et réclame 23,4 milliards de dollars sur les 12 prochains mois pour le financer.
La ville de Moscou a ralenti fortement ses activités ce jeudi en fermant pour 11 jours la plupart des entreprises, les écoles et les restaurants, dans l'espoir de contenir une nouvelle poussée de l'épidémie de COVID-19 en Russie.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Joe Biden est à Rome où il doit rencontrer ce vendredi au Vatican le pape François et aussi son homologue français Emmanuel Macron avant de participer aux réunions du G20. Il se rendra ensuite en Écosse où il assistera à la grande conférence internationale sur le climat COP26 à Glasgow.
Avant de quitter Washington hier, M. Biden a annoncé avoir trouvé le cadre d'un accord pour son plan historique engageant des milliers de milliards de dépenses dans les infrastructures, la transition énergétique et les prestations sociales. Mais l'indispensable soutien de plusieurs élus démocrates du Congrès à l'accord reste encore incertain.
En Haïti, la police a reçu des preuves de vie du groupe de missionnaires étrangers et de membres de leur famille enlevés le 16 octobre à l'est de Port-au-Prince. C'est ce qu'a annoncé hier une source de la police judiciaire. Les détails avec Abdourahmane Dia.
Selon cette source, les négociations sont en cours pour la libération des étrangers. C'est la cellule contre enlèvement à la direction centrale de la police judiciaire qui est en discussion avec les kidnappeurs. Elle précise que plusieurs agents du FBI collaborent avec les autorités sur ce dossier. Toutefois, ce membre de la police judiciaire n'en dit pas davantage sur la nature de ses preuves ou leur date de réception. Les 16 Américains et un Canadien ont été enlevés alors qu'ils venaient de visiter un orphelinat au cœur de la zone sous l'emprise d'un des principaux gangs d'Haïti. Les membres de 400 Maozo qui tiennent en otage les missionnaires depuis 13 jours ont réclamé 1 million de dollars par personne gardée captive. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux la semaine dernière, le chef de cette bande armée a menacé d'exécuter les otages. Les gangs ont commis plus de 782 enlèvements contre rançon depuis le début de l'année, selon le Centre d'analyse et de recherche en droits humains basé à Port-au-Prince.
La Muniteco Rosine Munezero.
En Afrique du Sud, le directeur général de la compagnie d'électricité Eskom, André de Ruyter, a proposé une feuille de route sur 15 ans pour une transition énergétique juste dans ce pays qui dépend à plus de 90% du charbon pour sa production électrique. Il y a un important travail en cours qui n'est pas seulement lié à la décarbonisation, mais aussi à la révolution énergétique et cela nécessite de l'argent, a poursuivi Monsieur de Ruyter. Pour exécuter ce plan, l'Afrique du Sud aura besoin d'environ 2,3 milliards de dollars. La start-up nigériane de technologie automobile AutoCheck a levé 13,1 millions de dollars pour renforcer sa plateforme de traitement de prêts automobiles et étendre sa présence. En Afrique de l'Ouest, la start-up vient de commencer en Côte d'Ivoire après le Ghana et son pays d'origine, le Nigeria. Présente au Kenya et en Ouganda, AutoCheck envisage une expansion en Afrique du Sud et en Égypte dans les prochains mois. Joe Biden a annoncé hier avoir présenté au Congrès un plan historique de 1 750 milliards de dollars de dépenses pour des mesures sociales et environnementales, peu avant de s'envoler pour le G20 et la COP26 en Europe. Il a aussi souligné que ce projet comprenait le plus grand investissement jamais réalisé pour faire face à une crise climatique visant à permettre pour 550 milliards de dollars de réduire les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030.
Merci Rosine. Les sports à présent avec Yakuba Ouedraogo.
Bonjour à tous. Cyclisme pour commencer. Après l'édition manquée de 2020, à cause du Covid-19, le Tour cycliste international du Faso débute aujourd'hui au Burkina. 15 équipes prendront part à cette 33e édition dont l'arrivée finale est prévue le 7 novembre à Ouagadougou. Le pays hôte présente 3 équipes. À noter aussi la présence d'équipes des Pays-Bas, de la Belgique, la Suisse, l'Allemagne, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Mali, le Cameroun, la République démocratique du Congo, le Maroc et l'Algérie. La première étape va se courir entre Banfoura et Bobo-Dioulasso, 125 km. Nous y reviendrons dans la partie magazine de cette édition. Football, la Mauritanie a nommé un entraîneur intérimaire pour remplacer Corentin Martins, viré après l'échec dans les éliminatoires du Mondial 2022. Il s'agit du Français Gérard Boucher qui sera donc aux commandes des Mourabitounes. Lors des 2 derniers matchs des qualifications contre la Zambie et la Guinée équatoriale, les 13 et 16 novembre, Gérard Boucher était jusqu'ici le directeur technique national de la Mauritanie. Le FC Barcelone a nommé Sergi Borwan entraîneur de l'équipe réserve pour assurer l'intérim de l'équipe première jusqu'à la signature d'un contrat avec un nouvel entraîneur. Mercredi, après une défaite de trop, celle face au Rayo Vallecano 1-0, le club catalan limogé Ronald Koeman, alors que le club ne pointe qu'à la 9e place de la Liga. Des noms ont été avancés dans la presse pour le remplacer en première ligne. Xavi Hernandez, l'ancienne gloire du Camp Nou, aujourd'hui sur le banc d'Al Sadd au Qatar. Mais d'autres noms ont aussi été cités, à l'instar de l'Italien Andrea Pirlo, libre depuis son éviction de la Juventus Turin fin mai, ou encore celui du sélectionneur espagnol de la Belgique, Roberto Martinez. Toujours en Espagne, malgré un but d'Antoine Griezmann, l'Atlético Madrid champion en titre a concédé le nul 2-2 sur le fil à le 21 en clôture de la 11e journée de Liga. Les Colchoneros pointent désormais à la 6e place du classement, à 5 points de la Real Sociedad, leader avec un match en plus, après sa victoire 2-0 sous la pluie sur la pelouse du Celta Vigo, grâce à un but et une passe décisive de son prodige suédois, Alexander Isak. NBA pour finir avec vous Idrissa, les résultats de la nuit dernière.
Philadelphie et Détroit 110 à 102, Washington et Atlanta 122 à 111, New York et Chicago, 104 à 103, Utah et Houston, 122 à 91, Dallas et San Antonio, 104 à 99.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seludia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Congo-Brazzaville, le Premier ministre et les membres de son gouvernement ont procédé à la déclaration de leur patrimoine tel que l'exige la Constitution. Ils estiment donner ainsi l'exemple dans la transparence et la bonne gouvernance. Mais la société civile et plusieurs analystes dénoncent ce qu'ils appellent un procédé caché qui renforce l'opacité et l'enrichissement illicite. Reportage d'Arsène Séverin, notre correspondant à Brazzaville.
La déclaration du patrimoine par les membres du gouvernement est une étape importante dans la transparence des finances publiques et dans la lutte contre la corruption. C'est une première depuis 1992 où cette question a été soulevée. Mais selon l'économiste Clément Mirassa, la Cour suprême qui a reçu ces déclarations n'a pas respecté la loi.
Le président Thomas Sankara, qui avait introduit dans notre monde cette nouvelle innovation, avait lui-même fait sa déclaration au vu et au su de tout le monde. Aujourd'hui, les déclarations sont cachées, elles sont confidentielles, et ça ne permet pas à un éventuel organe de contrôle de vérifier la sincérité, la véracité des déclarations qui sont faites.
Abordant dans le même sens, le juriste Mexan Animba, par ailleurs président du Forum pour la gouvernance et les droits de l'homme, parlait mécanismes viciés et non accessibles.
Des poursuites sont prévues, mais pour qu'il y ait poursuite, il faut d'abord que la fraude soit révélée. Or, c'est des documents sous scellés. Donc le procureur ne va pas accéder à ça. Cette procédure-là, elle est difficile à accomplir.
Trésor Ndila Kende, le directeur exécutif du Centre pour l'Action et le Développement CAD, qualifie cette cérémonie de communication secrète.
Ce procédé, loin de constituer une avancée dans la lutte contre la corruption, vient renforcer le manque de transparence au sommet de l'État. C'était un rendez-vous manqué.
L'analyste économique Alphonse Ndongo, quant à lui, salue ce premier pas qui distingue le Congo des autres pays de la sous-région. L'exemple est à consolider, dit-il.
Est-ce que ça devrait être sur plus fermé ou une autre manière, une autre forme déclarative de son patrimoine? Je pense que ce qui est important, c'est que le Congo marque déjà un premier pas qui, n'est-ce pas, donne une certaine autorité au pays à comparer avec les autres pays de la sous-région. Mais non, à l'avenir, certainement qu'il y aura des corrections qu'on pourrait apporter.
Le Premier ministre Anatole Coligny Makosso lui-même estime que c'est une étape importante dans la transparence des finances publiques et c'est un devoir républicain.
Et un engagement à la sincérité, à l'humilité, à la probité. C'est à cela que le peuple nous a astreint lorsque il portait sur les fonts baptismaux la constitution du 25 octobre 2015.
Intégrée dans la Constitution depuis 1992, la déclaration du patrimoine des personnes élues ou nommées à de hautes fonctions est rendue possible grâce à une loi adoptée seulement en février 2019. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
En Afrique du Sud, des bâtiments délabrés et dangereux sont aujourd'hui pris d'assaut. Entendez, squatterisés. Ces propriétés abandonnées ont été récupérées par des citoyens sans scrupules. Ces squatteurs menacent la valeur et la sécurité du centre-ville de Johannesburg, la plus grande ville d'Afrique du Sud. Mais un organisme de bienfaisance locale récupère et restaure un bâtiment historique pour offrir un abri à ceux qui en ont besoin. Pour la Voix de l'Amérique, Linda Givtash et Zahir Kassim se sont rendus à Florence House, à Johannesburg. Récit Claire Morin-Gibourg.
Le bâtiment est peut-être en train de s'effondrer, mais des centaines de personnes ont élu domicile à Florence House. L'ancienne maternité de Hillbrow, à Johannesburg, a été construite dans les années 50 et transformée plus tard en logements sociaux au début des années 2000. Au cours des 5 dernières années, cependant, la confiance en ceux qui géraient ce bâtiment a complètement disparu et plus personne ne semble être responsable. Jouma Sebichou est le fondateur de l'orphelinat Malaika, qui est basé au deuxième étage de Florence House.
Yes, you see the mess there where people dumping those rubbish.
Alors les gens ici ont juste commencé à se gérer eux-mêmes. Vous voyez le désordre là-bas, où les gens jettent ces ordures parce qu'il n'y a pas de bonne gestion. Si quelqu'un y jette des ordures, oui, il n'a personne pour les empêcher de le faire.
Le phénomène des bâtiments, que l'on appelle détournés, remonte à l'exode des propriétaires fonciers à la fin de l'apartheid. Des criminels prennent souvent leur place et demandent un loyer aux locataires sans fournir aucun entretien. Le problème est exacerbé par la crise du logement. La ville a signalé que plus de 450 000 personnes sont enregistrées comme ayant besoin d'un logement, ce qui signifie que les locataires des immeubles détournés n'ont aucune autre alternative. Toulanine Kossi est avocat principal à l'Institut des droits économiques, une organisation à but non lucratif.
Pour nous, la solution est que l'autorité locale s'implique, reprenne effectivement le bâtiment lui-même en tant que municipalité, entretienne le bâtiment, puis s'assure qu'elle subventionne. Parce qu'en fait, compte, vous savez, le devoir de loger les gens, le devoir d'accommoder les gens incombe à la municipalité.
Les autorités municipales se sont engagées à s'attaquer au problème. L'année dernière, la ville a signalé que plus de 1100 cas de ce que l'on appelle des propriétés problématiques ont fait l'objet d'une enquête, mais que seulement 16% des cas ont été résolus. Deux étudiants ont décidé de prendre les choses en main après avoir constaté les conditions épouvantables lors de la livraison de nourriture à l'orphelinat. Ils ont créé la coopérative The People Essay pour nettoyer la Florence House. Sky Burgess est la cofondatrice de The People Essay.
J'ai l'impression que si tout le monde continue de se demander à qui revient la responsabilité, le travail ne sera jamais fini. Si c'est sale et que vous vous plaignez que c'est sale, prenez une pelle et nettoyez. Vous savez que vous pouvez le faire.
L'organisation a enlevé des tonnes de déchets et ils sont en train d'imperméabiliser le toit et de réparer les bornes fontaines. Le maintien de l'immeuble en bon état va empêcher les locataires de devenir des sans-abri. Il reste à savoir si un nettoyage et des réparations suffiront à long terme à sauver Florence House.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Centre global pour l'adaptation affirme que le changement climatique poussera 120 millions de personnes dans l'extrême pauvreté d'ici 2030 et qu'un tiers d'entre elles seront des Africains si rien n'est fait. Les conclusions sont dans un rapport sur l'Afrique. En compte rendu de Mohamed Youssouf de Nairobi, le récit de Ginny Kapumbu-Villa.
S'exprimant à Nairobi lors de la publication d'un rapport sur les risques actuels et futurs du changement climatique en Afrique, Patrick Verkoyen, directeur du Centre mondial pour l'adaptation, tire la sonnette d'alarme.
In fact, worldwide, climate change, if unchecked, will push.
Le changement climatique mondial, s'il n'est pas maîtrisé, poussera 122 millions de personnes dans l'extrême pauvreté d'ici 2030, donc 43 millions de nouveaux pauvres en Afrique subsaharienne. Même si le développement est rapide et inclusif, jusqu'à 12 millions de personnes en Afrique pourraient sombrer dans la pauvreté en cette période à cause du seul changement climatique.
L'organisation, basée aux Pays-Bas, a déclaré que l'incapacité de l'Afrique à s'adapter au choc climatique récurrent augmenterait également le coût de l'emprunt, réduisant ainsi les opportunités d'investissement. Selon la Banque africaine de développement, le continent a besoin de 7 à 15 milliards de dollars par an pour créer des programmes d'adaptation. Akinwumi Adesina est président de la BAD.
We will scale up access to climate smart digital technologies.
Nous allons étendre l'accès aux technologies numériques intelligentes face au climat et aux données associées, fournir des services agricoles et financiers à au moins 30 millions d'agriculteurs en Afrique. Nous veillerons à ce que le risque climatique et la résilience soient intégrés dans au moins 50% de la valeur totale des nouveaux investissements dans les infrastructures en Afrique.
La BAD affirme qu'elle va investir 8 milliards de dollars pour créer des emplois durables pour les jeunes Africains et des initiatives financières innovantes qui contribuent à augmenter les flux financiers pour l'adaptation et la résilience. Le président Uhuru Kenyatta s'est adressé en vidéo à cette réunion.
Pour mettre en œuvre nos contributions à l'échelle nationale, nous prévoyons d'investir environ 8 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années. Cela ne représente que 10% de l'investissement nécessaire des NDC, donc nous avons besoin du soutien de nos partenaires internationaux.
Des hauts fonctionnaires et des chefs d'État du monde entier doivent se réunir dimanche à Glasgow en Écosse pour le sommet sur le climat COP26 et pour accélérer l'action visée par l'accord de Paris pour limiter le réchauffement de la planète.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le tour du Burkina Faso, le tour du Faso 2021 démarre ce matin au Burkina. 15 équipes venues de 12 pays sont attendues pour cette compétition sportive qui va durer 10 jours. La première étape se court ce matin entre Banfora et Bobo, longue de 125 km, nous dit de Ouagadougou notre correspondant Kader Traoré.
La caravane de la 33e édition du Tour cycliste international du Faso s'ébranle ce vendredi à partir de Banfora et sillonnera le pays à travers 10 étapes. Après la parenthèse de la COVID-19 qui a empêché le déroulement de l'épreuve en 2020, le Burkina est de nouveau heureux d'accueillir la crème du cyclisme africain. C'est d'ailleurs toute la joie du ministre en charge des sports, Dominique Nana.
Le défi est lancé, le défi est relevé. Il reste maintenant 10 étapes. Et espérons que les fruits tiendront les promesses des fleurs. En tout cas, j'espère que la suite sera aussi merveilleuse.
Parmi la dizaine d'équipes en compétition, le Burkina Faso sera présente avec 3 formations de 6 coureurs chacune. Pour le capitaine des étalons Mathias Sorgo, il y a de quoi espérer pour le maillot jaune.
Je peux dire que dans l'ensemble, la préparation, en tout cas, je me dis que ça s'est bien déroulé. Le niveau doit être au top, en tout cas, pour affronter. Nous sommes à 80-90%, voilà, pour affronter le tour. Voilà, je réserve les 10%. C'est les premières étapes qui vont déterminer les 10%.
Le coureur le plus en vue de la team Burkina est sans conteste Paul Domain. Il porte sur ses épaules l'espoir de tout un peuple.
Mes ambitions pour l'équipe du Burkina, c'est de remporter le maillot jaune à l'issue des 10 étapes. On va travailler pour ça en tout cas. On verra comment va se dérouler la course. En tout cas, c'est pour avoir le maillot jaune.
Au sein de l'organisation, outre le volet sécuritaire confié au capitaine Arnaud Zongo, qui est un aspect primordial dans la réussite de l'événement, il y a aussi l'aspect technique dont la responsabilité incombe à Youssouf Sawadogo. Lui et ses hommes travaillent d'arrache-pied depuis quelques jours.
Au niveau de la commission technique, nous sommes prêts parce que depuis ce matin, avec le commissaire international UCI, on a passé en revue la liste d'engagement. Comme les coureurs sont arrivés, avec les directeurs sportifs, nous sommes en train de faire le contrôle des licences. Nous allons faire la réunion technique dont la première étape serait donnée entre Banfora et Bobo Dioulasso, suivi d'un circuit.
Cette édition de la grand-messe du vélo africain réunit 15 équipes, dont l'Allemagne, la Suisse, la Hollande, l'Afrique du Sud. Seule la France n'a pas répondu favorablement à l'invitation. Quant à la RD Congo, ses coureurs sont toujours attendus avant le départ. Kader Traoré, sur les routes du Tour du Faso pour VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui. VOA Afrique, merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sedoudia et de Nanit Talani, Michel Joseph à la mise en onde et Nick Ivanov à la console. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.